Vera Niania.
Okay. C'est déjà le cas avec la plus grande qui a 13 ans, donc qui est réglée depuis plusieurs années. C'est ça, avec sa mère qu'elle a vu ça principalement au début, parce que moi j'y connais rien.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir dans un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen, 2 heures chaque après-midi pour décrypter un mot, un phénomène dans l'air du temps. Mais pas aujourd'hui, sauf à considérer que notre phénomène du jour est dans l'air du temps depuis 100 000 ans. Puisqu'en effet, pour introduire notre sujet, un tabou qui dure depuis juste 100 petits siècles, je vous raconterai une histoire personnelle. Celle du jeune Matounet, préadolescent, timide, ayant peu de contact avec la gente féminine, si peu qu'elle faisait pour lui l'objet d'un mystère immense. On peut le dire, Matounet avait peur des femmes. Déjà que son propre corps, pris dans une étrange mutation, l'inquiétait, celui des filles dont il ignorait tout, puisqu'on était en moins 20 avant Pornhub, le terrifiait. Une terreur dont il tient rétrospectivement responsable les publicités pour les serviettes hygiéniques. Car enfin, le film Avatar de James Cameron n'était pas encore sorti. Il n'y avait donc aucune raison pour qu'un mystérieux liquide bleu s'écoule des parties intimes des femmes. Quel était donc ce liquide qui imprégnait les serviettes Vania Ultra ? Pourquoi les actrices qui jouaient dans ces pubs avaient l'air de trouver tout à fait normal et même super que du curaçao leur sorte des entrailles ? Toutes les réponses à ces questions, Matounet les obtiendrait bien plus tard, quand il réussirait enfin à parler à une fille à 23 ans. Oui, comme beaucoup, j'ai été victime d'une entourloupe publicitaire qui illustre magnifiquement le tabou des règles. La parole se délie enfin, c'est un sujet qu'on commence à aborder quand même plus frontalement, mais Dieu sait qu'il en a fallu du temps, et c'est d'ailleurs en clin d'œil à toutes ces expressions et périphrases ridicules qu'on a inventées pour parler des règles, sans les nommer, qu'on a baptisé cette émission Zoom Zoom Zen spécial Ragnagna.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Et bonjour Élise Thiébaud.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Élise, vous êtes journaliste, essayiste, féministe. En 2017, vous avez publié coup sur coup Les règles, quelle aventure, une BD illustrée et Ceci est mon sang, petite histoire des règles et celle de celles qui les ont et de ceux qui les font aux éditions de La Découverte. Vous y décortiquez donc l'histoire du tabou du cycle menstruel, les fameux ragnagna. On a choisi ce terme aujourd'hui. Ensemble, on va essayer de comprendre pourquoi les règles sont toujours un tabou aujourd'hui, même s'il y a quand même du mieux, on va le voir. Juste le temps de vous présenter ceux qui n'ont aucun tabou. Alors bon, peut-être pas au point d'être sur OnlyFans, comme notre réalisatrice Alicia Vulot, dont la double vie réalisation pole dance méritera un jour qu'on lui consacre toute une émission. Mais quand même, ils sont assez libres. Manon Mariani, Quentin Louis, bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Pas de tabou là-dessus, c'est vrai que...
Non, clairement pas.
C'est vrai que vous dites tout.
Ah oui ?
Moi, je vous en parle assez souvent.
C'est vrai. Manon, vous, chaque jour, vous nous faites découvrir une personne qui nous permet d'aller plus loin sur notre sujet du jour.
Et deux femmes, cette fois-ci. De femmes françaises à l'origine de la première culotte de règles en France, une invention qui a révolutionné la vie de beaucoup de femmes, dont la mienne.
Quentin, vous partez dans les rues,
Oui. Rencontrer
les passants pour les interroger, les faire réagir à notre mot.
Je suis parti parler des règles dans la rue. Comment on en parle en 2024 ? Quel mot on choisit d'ailleurs ? Je vous ai posé la question dans ce micro-trottoir qu'on va écouter avec des hommes, des femmes et tout autre genre de réaction.
Ah, j'ai cru d'autres gens encore non. Que l'homme et la femme. C'est possible, hein, aujourd'hui tout est possible, Quentin. Vers 16h30, comme jouer avec les ragnagna aurait quand même été assez incongru, voire déplacé, le Zoom Zoom Test sera consacré aujourd'hui à toutes ces expressions ridicules ou fleuries qu'on a inventées pour nommer les choses qu'on avait honte de nommer.
On m'appelle
pas comme ça,
c'est la bûche. Oh,
par exemple, il y a des périphrases comme
c'était
ça.
Pas moi,
juste avant 17h, nous serons rejoints par Elena Nagapétian qui, elle, a déjà vu des règles bleues, mais c'était chez des opposants de politique russe qui avait dit du mal de Poutine. Elle nous racontera ça certainement. Mais d'abord, Élise Thiébaud, c'est quoi votre mot, votre expression à vous pour désigner les règles ?
Alors moi, le mot que je préfère, l'expression que je préfère, à part ma Ferrari égarée devant la porte où j'ai hissé le drapeau japonais qui fait partie de mes préférées, celle que j'ai beaucoup utilisée pendant les 40 ans durant lesquels j'ai eu mes règles, c'était « avoir ses ours ». J'aimais beaucoup cette expression, elle renvoie à la fois à l'idée qu'on est ronchon, on est un peu ours, on est un peu bûcheron dans le moment où on a ses règles. Je trouvais ça assez marrant comme façon de déranger le dégenrement ou dégenrer le dérangement. Et puis l'autre lien, c'est que « avoir ses ours », qui est en fait une allitération de avoir ses jours, les jours où on a ses règles, ça permettait de renvoyer à la grande Artémis, qui était la divinité qui présidait aux menstruations, et qui s'appelle, le mot Artémis, ça veut dire la l'ours puissante.
C'est de loin la plus raffinée des expressions. Ouais. Hein. Face à vous, Élise, c'est lui qui a trouvé le titre de cette émission parce que quand il était jeune, sous Coty, c'était l'expression la plus utilisée pour désigner les règles. Hors antenne, il m'a même appris l'autre jour qu'il était aussi bien ancré dans son époque. Une expression que tu m'as appris, avoir les Anglais qui débarquent.
Ouais, vous connaissez pas. Hein.
Ah, non, jamais entendu ça. Vous connaissez ça, évidemment.
Bah, évidemment.
Bah, évidemment, c'est la plus connue.
C'est la plus répandue.
Ouais.
C'est une très répandue, absolument.
Chez mes grands-parents, personnellement.
En Suisse, on n'utilisait pas ce genre.
Personne débarque, c'est pour ça.
C'est pour ça qu'on ne la connaissait pas. Elle est très française, cette expression. Cyril, racontez-nous, en évitant tout jeu de mots inconvenant qui jetterait le discrédit sur notre émission appréciée par Télérama, les ragnagnas, d'où ça sort.
Commençons avec quelques chiffres récents, ceux d'une enquête. 55% des personnes interrogées disent qu'il est inapproprié de parler des règles en public. 61% des 50-64 ans disent même frémir seulement à l'évocation du mot règle. Et 9% des femmes interrogées jugent même que les règles sont dégoûtantes. Autant dire que c'est à un sujet brûlant qu'on s'attaque aujourd'hui. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'on ne doit pas en parler. Et ça remonte à loin. Selon certains anthropologues, ça remonte même à la naissance du patriarcat, ce qui nous emmène loin, très très loin, jusqu'à la période néolithique. Pour vous donner une idée, c'est 100 000 ans avant la naissance de Jésus-Christ, de l'abbé Chibrard. Donc très loin.
Très loin.
Et pourquoi dès ce moment-là ? Eh bien parce que déjà, les femmes étaient mises de côté, eh bien parce qu'elles saignaient.
Mais ça n'a pas évolué ?
Bien au contraire, leur exclusion s'est renforcée, leurs règles étaient le symbole qu'elles n'étaient pas les égales de l'homme. Ce qui fera dire, un jour, bien plus tard, à un personnage du dessin animé Trash, South Park...
Je n'ai aucune confiance en des êtres qui peuvent saigner 5 jours sans en crever.
Dans la Torah et dans le Coran, la femme qui a ses règles est impure. Pline l'Ancien dit qu'une femme qui a ses règles fait aigrir le vin doux. Bref, aucune surprise qu'en 2024, plus d'une personne sur deux pense qu'on ne doit pas parler des règles en public. C'est pourtant ce qu'on va faire durant une heure, par l'absurde, avec ce terme de ragnagna. Il se dit que ce mot viendrait de arrogant, qui signifie désir en gascon. Alors pourquoi ragnagna, les Anglais qui débarquent, je suis indisposé, et d'autres se sont imposés dans le langage courant ? Pourquoi est-ce que ça nous fait peur, les règles des femmes ? Pourquoi est-ce que le sang des femmes. Est-ce que le sang des femmes, c'est vraiment bleu, comme le disait Matounet ?
Je l'ai longtemps cru.
Qu'est-ce que traduit encore ce tabou aujourd'hui ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril. Élise Thiébaud, comme Cyril vient de nous en faire la démonstration, les règles restent encore en 2024 un tabou. Moi, je vous avoue, en préambule de cette émission, que vraiment, ça m'étonne. Il y a beaucoup de choses qui me surprennent, mais ça vraiment, ça me surprend énormément que le tabou des règles persiste en 2024. Pourquoi c'est si tenace ?
Alors d'abord parce que c'est très ancien, parce que c'est inscrit dans vraiment l'histoire de l'humanité, et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, il y a eu un véritable renversement, parce que le néolithique, c'est pas il y a 100 000 ans, c'est plutôt il y a 10 000 ans, c'est vraiment le moment où, après des dizaines de milliers d'années de vie préhistorique ou paléolithique, qui étaient chassées, cueillir et être nomade, on est passé à une vie sédentaire, on a domestiqué les animaux, on a créé les premières cités-états, et il s'est passé, ce qui est très bien documenté dans la Bible, la chute des femmes, c'est-à-dire qu'elles se sont mises à avoir, ce qui n'était pas le cas à la préhistoire, des enfants tous les ans, à tomber enceinte tous les ans. Pour plein de raisons, entre autres la nourriture qui avait changé, on pouvait diversifier la nourriture plus vite. Donc en fait, il y a un véritable renversement qui coïncide avec l'instauration effectivement du patriarcat. On veut s'approprier le corps des femmes. Le signe qui était précédemment celui de leur pouvoir immense, celui qu'elles avaient elles seules de porter et mettre au monde des enfants, qui était relié à la lune, dont les cycles coïncidaient avec ceux du cycle menstruel, qui faisait d'elles des divinités. Les premières divinités sont des divinités lunaires et menstruelles. Véritablement, les premières tablettes de calcul sont des calendriers menstruels qui essayent de calculer. Imaginez-vous une grossesse, c'est-à-dire qu'on voit une personne qui n'a pas ses règles depuis 2-3 mois, et on peut dire,
quand elle va
dans 6 lunes, elle aura un enfant, alors que ça ne se voit pas. C'est-à-dire que c'est vraiment entouré d'une énorme magie. À partir du moment où on arrive à une situation différente avec le néolithique, on va chercher à dominer les femmes. Les femmes vont être dominables aussi parce qu'elles vont perdre une partie de ce pouvoir en étant enceintes tous les ans, en perdant 70% de leurs enfants avant l'âge de 5 ans. On peut imaginer très bien en quoi ça va détruire un individu, une classe entière de l'humanité, la moitié de l'humanité. Et à partir de ce moment-là, on le voit, c'est aussi documenté dans la Bible, c'est à ce moment-là qu'on considère que le sang est sale, que le sang est quelque chose de, qui devient tabou, interdit, et qui devient le signe de l'infériorité des femmes.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Zoom Zoom Zen sur le tabou des règles, pudiquement appelé ici Ragnagna, avec celle qui a crevé l'abcès, la journaliste Élise Thiébaud. Élise, quand les pubs pour les serviettes hygiéniques utilisent du liquide bleu pour symboliser les règles, je faisais des vannes autour de ça en début d'émission, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça dit quelque chose de ce tabou?
Ça dit qu'on considère les règles comme quelque chose de sale. Mais à la décharge des publicitaires, on ne met pas non plus du jaune et du marron pour les couches pour bébés.
C'est juste.
C'est simplement une manière de montrer ce liquide d'une façon qui est jugée moins déplaisante. Cependant, ce qui est grave, ce n'est pas tellement la couleur, en vérité, c'est le fait qu'on ait seulement testé les protections périodiques avec du sang, même pas menstruel, qui n'a rien à voir avec le sang veineux, on ne l'a testé qu'il y a un an. C'est-à-dire que ça fait un siècle qu'on fabrique des protections menstruelles qu'on teste avec de l'eau.
Vous voulez dire que l'industrie testait avec de l'eau ?
L'industrie testait avec de l'eau. On n'a jamais testé avec du sang menstruel, parce que c'est ça un tabou.
Ah oui.
Un tabou tellement fort, intériorisé par les femmes, mais aussi par les hommes, qui sont les scientifiques majoritairement depuis très longtemps, étudier les règles. Quand vous pensez que c'est seulement en 2007 qu'on s'est aperçu qu'il y avait dans le sang menstruel des cellules souches, c'est-à-dire des cellules qui sont capables de se reproduire et de se différencier, qui sont très impliquées dans des processus de, par exemple, de guérison de certaines maladies. On fait des... Jusque-là, on ne connaissait que deux réservoirs dans le corps humain, la moelle osseuse et le sang du cordon.
On n'avait jamais pensé à examiner le sang menstruel.
Je ne sais pas ce qu'ils foutaient avec leur fucking microscope, mais ça leur est jamais venu à l'idée de savoir ce qu'il y avait vraiment dans le sang menstruel. C'est fou.
Manon ?
Il y a quelque chose qui m'a toujours un peu scandalisée, c'est pourquoi les protections menstruelles, les protections périodiques, pardon, sont payantes. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui devrait être gratuit ?
Certainement, c'est absolument évident. Vous ne payez pas quand vous allez dans un lieu public pour le papier toilette. Donc, dans les lieux publics, il est évident que moi, je milite depuis longtemps pour que les protections périodiques, et on s'est beaucoup battu pour que ce soit périodique et pas hygiénique, pour justement décorréler cette idée de sale. Et c'est en train de se faire. Il y a de plus en plus de collectivités, d'universités, d'écoles qui mettent à disposition des protections périodiques bio, dans l'espace public. C'est vraiment un énorme progrès.
Ça coûte combien, les règles, à une femme, au cours de sa vie ?
Ça dépend de la femme, et ça dépend du nombre de fois où on a, en moyenne, dans une vie, 450 fois ces règles. Ça va représenter entre 2000 et 2400 jours dans une vie, 6 à 7 ans. C'est beaucoup. Le coût, il a été évalué entre... Alors, c'est passé de 2 500 € dans une vie. On va se dire qu'on part sur à peu près 10 euros par mois, mais à minima. À minima, sachant qu'il y a un gros différentiel de prix suivant les protections périodiques, que les protections périodiques qu'on appelle conventionnelles, celles qui sont les moins chères et les plus accessibles, sont aussi celles sur lesquelles pèsent des soupçons de contenir des perturbateurs endocriniens, des résidus de pesticides. Donc, quand on veut passer à quelque chose d'une meilleure qualité, c'est plus cher. Si on a des règles hémorragiques ou importantes, eh ben ça va coûter beaucoup plus cher. Et puis, si par ailleurs, on est porteuse d'endométriose et qu'on a besoin de prendre des calmants qui ne sont pas remboursés, ça va devenir encore plus cher. Donc, on est entre 2500 et 5000 euros dans une vie, c'est beaucoup.
On s'est d'ailleurs rendu compte, il n'y a pas si longtemps que ça, que les tampons, par exemple, pouvaient être dangereux aussi pour les femmes.
C'est à peu près à la même époque, disons, je crois que c'est en 2018 qu'il y a eu un grand documentaire de Audrey Glohagen qui s'appelle « Tampon, notre ennemi intime », dans lequel elle met en lumière les problèmes causés par certains tampons et qui peuvent produire des syndromes du choc toxique. Syndrome du choc toxique qui peut être mortel, sur lesquels il y a très peu d'informations, pas de remontées suffisantes dans les instituts de santé.
Mais ça aussi, c'est complètement dingue. Dites-moi si j'ai bien lu, l'affichage de la composition des protections hygiéniques n'est obligatoire que depuis avril.
Absolument.
Avril, là, avril dernier.
Oui, oui, ça a été un très long combat, et encore, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. C'est-à-dire qu'on, moi, je pense qu'on a été... on s'est un petit peu trompé de combat. Enfin, on fait comme on peut. On a d'abord demandé, par exemple, à faire baisser le taux de la TVA de 20% à 5,5% en 2016, ce qu'on a obtenu. Je ne crois pas que ce coût se soit répercuté, que cette décote se soit répercutée sur les acheteuses finales, d'une part. Et d'autre part, on a perdu de l'argent pour l'État, pour faire des recherches sur les règles, j'aurais préféré.
Ah oui.
Et puis, effectivement, il y a... j'ai perdu votre question.
Mais pourquoi, non, je parlais de l'affichage de la composition des protections hygiéniques.
Oui, alors sur la composition, pareil, ils disent la composition, comme on le dit sur les cosmétiques.
Mais il faut être un expert pour déchiffrer.
Mais sachant, franchement, ce qu'on devrait être en droit d'exiger pour un produit qui va être en contact, pas une fois de temps en temps, on a parlé de 2400 jours dans une vie, au contact des muqueuses, c'est-à-dire avec une perméabilité très grande, on est en droit d'exiger des producteurs et des industriels qu'ils garantissent l'innocuité de leurs produits.
Oui, tout simplement.
Ce qu'ils ne font pas.
Ce qu'ils ne font toujours
ils
pas.
Ils ne font toujours pas. Il n'y a pas de garantie d'innocuité. Et or, le problème des perturbateurs endocriniens, on le sait, c'est l'effet cocktail.
Et vous, quelle expression vous utilisez pour parler des règles et surtout, est-ce que vous en parlez sans tabou ? Quentin est parti vous poser la question.
Et alors que je commence à arrêter des gens au hasard dans la rue, cette troupe de vingtenaires s'approche en voyant le micro France Inter.
Bonjour !
Est-ce que vous êtes Quentin ?
Ma mère, elle va être trop contente !
Ma mère va être trop contente. La phrase fatale est tombée. Ma mère vous adore. Mathieu Noël me l'avait déjà dit, mais c'est une autre histoire. Je leur fais lire le mot du jour.
Les ragnagnas.
Bah oui.
Bah les règles.
On en a dit juste avant.
Vous étiez en train de parler de règles ?
Oui, exactement. Parce que je crois que je vais avoir mes règles. Je me plaignais d'avoir mal au ventre.
Le mot ragnagna ou... Bah je le disais quand j'étais pré-ado, quand j'en avais un peu honte, et maintenant je m'en fous. Donc
Moi je trouve que le dire, c'est un peu placer un tabou sur les règles. De pas vouloir dire le mot exactement « j'ai mes règles ». De vouloir dire autre chose.
C'est ça, en plus ça fait un peu enfantin quoi, de dire ragnagna comme si on voulait cacher.
Alors, il faut le dire. Et dire règles, alors forcément, on arrive sur des anecdotes de règles.
Ouais, c'est honteux. On me reconnaîtra pas. Ok. Bah, moi, la première fois que je les ai vues, c'était à la piscine. Je pense que c'est la hantise de toutes les filles. Et en fait, comme le sang, le premier sang, souvent, il est brun, bah, en fait, je pensais juste que je me chiais dessus, sans faire exprès. Juste, j'étais en mode, putain, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Parce que je savais pas que le sang, il pouvait aussi être brun. En fait, il est pas toujours hyper rouge. Du coup, je suis en mode, mais qu'est-ce qui se passe, en fait ? Bref, voilà.
Est-ce que ça vous a traumatisé là-dessus ?
Non, maintenant ça me fait beaucoup rire.
Oui, elle en rit, elle le partage avec nous sous leur grand manteau d'hiver. Et cachée derrière leur écharpe, j'arrête ses deux collègues.
Bonjour, bonjour.
Quels sont vos prénoms ?
Annabelle.
Sylvie.
Vous avez quel âge ?
53. 62.
Qui fait quoi dans la vie ?
Gardienne d'immeuble.
Toutes les deux. Toutes les deux. Ouais, on vient d'une formation.
Et vous êtes gardienne où ?
Dans le 16e, Neuilly-sur-Seine.
Ah, les beaux quartiers. Elle découvre...
Les ragnagnas.
Ça me fait rire parce qu'on sait pas ce que c'est les ragnagnas.
Ah si ?
Moi non.
Ah ouais, tu sais pas ?
Non.
Non, au Portugal on dit les Benfica.
Vous expliquez ce que c'est ?
Bah c'est les règles.
Moi je disais les Américains ont débarqué.
Ah alors moi j'avais noté les Anglais de mon côté, mais allons-y pour les Ricains, ça marche aussi dans un sens, ils ont aussi débarqué à un moment donné. Comment on en parlait des règles quand elles étaient jeunes ?
Bah on n'osait pas en parler. Voilà, c'était tabou, à notre époque c'est tabou. Les jeunes d'aujourd'hui, elles ont plus froid aux yeux.
Je vous dis, ils sont ouverts, ils ont plus d'ouverture d'esprit. Et moi, je leur tire le chapeau, hein, parce que franchement... Mais nous, on avait une certaine discrétion, nos parents, tout ça.
Oui, juste Quentin, je voulais revenir, une des deux a donné une autre expression pour la règle, il a dit Benfica.
Oui.
Vous voyez pourquoi ?
Non.
Benfica Lisbonne, c'est un club, c'est rouge.
Ah ouais, c'est
rouge.
Ça.
C'est un club qui joue tout en rouge.
Ah, vous avez
comme
complété
Liverpool.
L'anecdote que je n'avais pas.
Bah, je pense que c'est ça.
Mais les choses changent, donc, et ces deux quinquas le constatent. Si on passait aux hommes maintenant, le premier que j'arrête, c'est vrai, je lui pose cette question. Où en sommes-nous avec les règles dans la société ?
Ben, elles ne sont pas respectées. Les règles de circulation, du trafic, les voitures ne s'arrêtent pas au passage piéton, là.
Ah, non, mais moi, je vous parle des règles des femmes.
Ah bah j'en sais rien.
Voilà, mauvaise pioche. J'essaie de me rattraper avec Alexandre et Yvan que je croise.
Les ragnagnas. C'est quoi les ragnagnas ? C'est les règles. C'est le truc des femmes quoi. Je me sens pas concerné personnellement.
Les ragnagnas. Bah, c'est un terme un peu vulgaire pour parler des règles, si je ne me trompe. J'ai l'impression que ça évolue pas beaucoup. J'ai pas l'impression qu'on en parle énormément. Je sais pas, je me souviens de l'époque où on faisait des pubs, où on les montrait en bleu, par exemple. Je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, plusieurs marques utilisent un liquide rouge pour normaliser les conversations autour des menstruations et surtout pour être enfin réaliste. Ma dernière rencontre, c'est Baptiste, 43 ans, casquette de NBA sur la tête.
Les ragnagna, ok. La vision des gens ?
Ouais.
Et des mecs en particulier, oui, je pense un petit peu. Enfin, moi, autour de moi et moi-même, je pense qu'il y a quelque chose qui est...
Qu'est-ce qui a changé pour vous, par exemple ?
Le fait de savoir ce que c'est. De ne pas voir ça comme et quelque chose de tabou, et quelque chose de sale, et quelque chose de... Voilà.
Il me confie qu'il a deux filles. Est-ce qu'il va parler de ce sujet avec elles ?
C'est déjà le cas, avec la plus grande qui a 13 ans, donc qui est réglée depuis plusieurs années. C'est ça, avec sa mère qu'elle a vu ça principalement au début. Parce que moi, j'y connais rien. Mais moi, de mon côté, j'essaye de tout faire pour que ça soit en fait normal, quelque chose de normal. Voilà.
C'est-à-dire qu'elle ne vous l'a pas annoncé à vous ?
Non, parce qu'elle a vu ça directement avec sa mère. Ouais.
Mais quand même, au quotidien, est-ce qu'il lui arrive de lui en parler ?
Oui, ça arrive. Oui, t'as eu tes règles. Moi, je demande des fois aussi, j'ai mal au ventre, etc. Bah, t'as tes règles. Voilà. Mais pas en mode, justement, comme dans les années 80, où on en faisait des blagues, ça y est, t'as mal à la tête. C'est pas ça, on en parle tout à fait normalement dessus, et j'espère que pour mes enfants, ce sera quelque chose de normal d'en parler avec son compagnon, ou de... Voilà.
Finalement, ce mot ragnagna fait ressortir des choses très personnelles, les règles se démocratisent, prennent leur place dans les conversations, dans la société, dans les pubs. Mais parmi les personnes que j'ai arrêtées, c'est surtout entre femmes qu'on aborde le sujet. Pour les hommes, il reste encore un peu de travail. L'écoute est sans doute la première des règles.
Élise Thiébaud, on avance, mais on avance doucement quand même. Il y a du mieux chez certains hommes qui en parlent plus facilement, surtout les hommes qui sont papas, qui ont des filles. Peut-être que ça aide un petit peu.
Oui, ça aide, bien que on voit qu'ils cherchent un peu à se défausser là-dessus. J'ai eu des témoignages quelquefois très pénibles, très souvent dans les assemblées. Il y a très peu d'hommes pour parler des règles quand je fais des interventions. Mais en général, ils parlent beaucoup, tout de suite, pour me dire « Ah non, alors c'est pas du tout comme ça ». Moi, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit « C'est pas du tout comme ça que je vois les choses, le tabou, etc. » Bon, alors j'ai dit « Bah écoutez, venez, prenez le micro, etc. » Donc il y a ce côté-là qui existe toujours sur tous les sujets, quand on s'exprime publiquement et qu'on est une femme ou identifiée comme telle. Et puis, il y a aussi des témoignages très émouvants d'hommes qui me disent « Effectivement, ça m'angoissait, effectivement, je ne savais pas ce que c'était ». Le témoignage le plus émouvant que j'ai eu est celui d'un homme de 80 ans qui m'a dit « Après avoir lu votre livre avec ma femme, nous avons passé une nuit entière à reconsidérer notre vie de couple et j'ai compris que pendant des années où je croyais qu'elle s'éloignait de moi parce que j'avais fait quelque chose de mal et en fait elle était juste mal à l'aise avec son cycle menstruel et elle ne m'en avait jamais parlé et merci parce qu'on a redécouvert toute notre vie intime grâce à ce livre et c'est quelque chose aussi que je voulais souligner, le fait de lever ce tabou ça a un impact sur la santé en général, sur le bien-être bien entendu, mais aussi sur l'intimité et la sexualité qu'on peut avoir. Parce qu'il n'y a pas quelque chose dont on fait semblant que ça n'existe pas.
Manon ?
Moi, personnellement, j'ai aucun de mal à parler de mes règles, de mes syndromes pré-post-menstruels, etc. J'en parle au bureau. J'entends dire « Ah, stop, arrête de le faire, etc. » Machin. Non, mais c'est vrai. Oui, vite fait. Non, mais c'est quelque chose qui dérange encore. Est-ce que pour vous, il faut libérer la parole, en parler dans tous les espaces aujourd'hui ?
Alors moi, je suis pas tellement quelqu'un qui dit faut faire ci ou faut faire ça. J'observe que raconter tranquillement, avec humour, être très attentive et attentif à ce qui se passe quand quelqu'un est pas à l'aise avec son corps, se sent pas bien, de pouvoir écouter.
Oui, parce que du coup, c'est pas que avec humour.
Non, pas que avec humour. Je dis l'humour, ça permet de se détendre. En fait, moi, j'ai fait un livre qui était humoristique et puis la BD aussi, parce que quand on est face à un tabou qui fait peur, en fait, ça angoisse. Les règles, ça angoisse. C'est entaché d'une stigmatisation, vous le disiez. Si on est de mauvais poil, on va s'entendre dire, il n'y a pas une femme qui ne s'est pas entendue dire « Ah, mais dis donc, t'as pas tes règles, parce que vraiment, t'es pénible. » Soi-même, on se sent en tension à l'idée d'avoir ou pas ses règles, et ça, c'est ancestral, parce que c'est un véritable enjeu. Donc, le risque de stigmatisation fait que c'est difficile, et qu'on est mal à l'aise et qu'on a peur. Donc, rire, ça détend, et puis aussi, après, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire, essayer de comprendre très sérieusement, scientifiquement, médicalement, qu'est-ce qui se passe dans ce corps.
France Inter. Zoom Zoom Zen.
Les ragnagnas, c'est comme ça qu'on a décidé de baptiser notre émission du jour pour souligner et dénoncer le tabou idiot autour des règles. Et en matière d'idiotie, vous n'avez encore rien vu puisque voici le Zoom Zoom Test. Un quiz dédié aujourd'hui aux expressions imagées, parfois issues de l'argot, qui égayaient jadis notre belle langue, puisque je vous rappelle que rien que pour désigner les règles, on avait les ragnagnas, les Anglais ont débarqué, ou encore les communistes sont dans la maison du plaisir. Tout ça pour éviter de prononcer le mot. Voici donc un quiz nostalgique pour s'enjailler au pays du verbe fleuri et vous détartrer le ciboulot. En amour, ne vous fiez pas aux apparences, sous ses airs de foutriquet et Jacquemus, il ne faut pas lui en promettre à Quentin, lui. Et peu importe que la rue soit barrée, comme on dit pudiquement, bien au contraire.
C'est un peu comme à la radio, en fait, s'il n'y a pas le rouge, j'y arrive pas.
Oui, oui, en résumé, un digne représentant de l'école de la bouillave que rien n'arrête.
Il est devenu fou.
Nous sommes un soir de mai 2024. Oula. Quentin fête au Bayoko sa deuxième victoire de la saison au Zoom Zoom Test.
Euphorique. Il avait cette musique.
Certainement. Euphorique, il commence à faire la chenille. Il commence à faire la chenille d'un peu trop près avec Chloé, deuxième dauphine de Miss Alençon 2013. Tout ça pour se retrouver quelques minutes plus tard avec les chasses bordées d'anchois. Manon Quentin, que lui est-il arrivé? Il s'est vomi dessus après avoir enchaîné les Malibu Ananas. Il a pris un gauche-droite par le fiancé de Chloé, où il s'est fait les croisés en dansant.
B.
C.
Vous êtes...
Ouais.
C'est une bonne réponse de Manon Mariani. Oui, un œil au beurre noir par le fiancé de Chloé. Voilà ce que signifie avoir les chasses bordées d'anchois. Une belle leçon d'humilité pour Quentin, qui ne perd pas une occasion de faire son chat-mite à chaque fois qu'il croise Nagui. Ce qui signifie...
Oula, oh bon, c'est facile ça.
Qui lui lèche les sneakers.
Un chat-mite, vous avez dit.
Non, un chat-mite. Ah, restons polis. Restons polis, Quentin, je vais être obligé de vous retirer un point. Parce que des enfants nous écoutent.
Que je n'ai pas.
Qu'il lui vole ses sneakers ou qu'il lui mange ses sneakers.
Ah.
Ah bah c'est facile.
Bah oui, d'accord.
Mais c'est facile, mais l'idée...
On a qu'à la faire au dé.
Faut être
c'est
rapide,
facile,
hein,
c'est facile n'est pas la bonne réponse. Okay. La bonne réponse, c'est la réponse A. Bravo Manon, bravo. Je vous taquine évidemment Quentin, je suis jaloux de votre complicité entre personnes de moyenne taille. Oh. Nagui sera d'ailleurs notre invité
à partir vous
de 17h.
Ouais.
comptez sur moi pour ne pas lui dire. Ouais. Attention, autre salle, autre ambiance. 1h du matin dans un bar de la rue Oberkampf. Le happy hour est terminé, Manon est seule au bar, abandonnée par Pierre Courade qui lui a filé à une soirée cuir moustache au Cierge Magique, le cabaret fréquenté incognito par l'abbé Chibrard. Manon est en bad car elle a perdu 17 followers sur cette semaine suite à sa sto sur les cups menstruels connectés. D'après vous, comment le barman peut la remettre d'aplomb?
Oula.
En lui remontant l'ascenseur parce qu'elle chauffe le four? En lui proposant de trinquer du nombril? Ou en lui proposant de décrocher ses tableaux?
B.
C.
Non, c'était la réponse A. Lui remplir son verre, bien sûr. Car Manon est comme une multiplate de 2004, elle consomme beaucoup. C'est ça, chauffer le four. Et si le serveur ressemble à Tristan Berthelot, notre invité de l'autre jour, pourquoi pas trinquer du nombril? Auquel cas, réponse B aussi, mais c'est autre chose. Attention Manon, chauffer le four, d'accord, mais avec modération, car sinon vous commencez à changer l'eau des olives, yoyoter du bulbe ou faire flanelle.
A. B.
A, évidemment.
B.
A, c'est aller uriner, non? C'est ça?
Oui, mais c'est pas formulé comme ça.
AB, du coup?
AB, comme AB Production? Pas du tout, non. C'est la
comme
réponse.
AB Chibre.
Non, je ne peux pas donner de points. C'était uniquement la réponse B. Yoyoter du bulbe. Vous aviez dit B?
Oui.
Je vous donne le point.
Merci.
Yoyoter du bulbe. Ou pour les millions de jeunes qui nous écoutent tous les jours, dire de la merde quand on est rebou. Par exemple.
Tu nous manques Hitler.
Voilà, par exemple. Un exemple au hasard comme ça et sans trucage. Ah non, Cyril me dit en l'oreillette que dans ce cas précis, vous étiez agent. Il me dit aussi qu'il va s'absenter, Cyril, un petit moment pour changer l'eau des olives, justement. Et d'après vous, où va-t-il?
J'espère que je vais avoir le point.
Où va-t-il? Chez Europe 1, car il cumule les petits boulots pour nourrir ses deux familles. Chez Blériot, pour prendre son petit romantant de 16h39. Ou aux toilettes, car la prostate, c'est comme le wokisme, ça prend trop de place dans sa vie.
C'est
bravo. Je vous le laisse, Quentin.
Ah, vous l'avez laissé.
Mais moi,
vous faites des politesses maintenant. Bonne réponse, Quentin, bravo.
Bah oui.
On vous a offert un point. Et oui,
non,
Cyril a beau mettre une casquette parce qu'il a les douilles savonnées, ce qui est toujours mieux qu'une calvasse, mais enfin bref, je ne vais pas vous raconter ma vie. Il y a des signes qui ne trompent pas. D'après une source bien informée qui travaille au salon de massage à deux mains, où Cyril a son rond de serviette, il a de plus en plus tendance à être de mauvaise foi, ne plus marquer midi ou faire flanelle.
B.
Faire flanelle, ça marche aussi, je crois.
Je sais pas.
C'est.
Réponse B, c'est. Les deux fonctionnent. Vous l'aurez compris, ne plus marquer midi ou faire flanelle. C'est lorsque, comme le dit si joliment la tenancière du salon de massage, on ne peut plus faire dresser son Mont Fujiyama. Bravo à Manon Mariani qui remporte ce quiz haut la main. Mais les expressions, ça vous connaît, vous connaissez toutes les expressions, parfois même vous les avez forgées.
Bien sûr, dans le 11e du moins.
Dans le 11e.
B de bail.
B de bail, ma passe. Bon, voilà.
Elles ne sont pas encore officielles, donc pas encore dans le quiz, mais un jour ça viendra. Zoom sur les ragnagnas cet après-midi dans Zoom Zoom Zen avec la journaliste Élise Thiébaud. Élise, on parle beaucoup de l'endométriose aujourd'hui, on en parle beaucoup dans cette émission. Est-ce que ça aussi, c'est un tabou qui est enfin sur le point de tomber?
Alors, le fait qu'on parle des règles a permis de parler de l'endométriose. Et effectivement, beaucoup de livres sont sortis, beaucoup de personnes se sont exprimées. Des recherches scientifiques commencent à se mettre en place. Mais c'est véritablement très récent pour une maladie qui existe, voilà, qui est décrite depuis l'Antiquité, hein, grosso modo.
Comment ça se passe chez nos voisins? Les règles, c'est moins tabou ailleurs qu'en France ou c'est très français?
Non, c'est pareil dans le monde entier. Hein. C'est un tabou relativement universel. Ce qu'on observe, c'est que dans les sociétés qui sont plus égalitaires, dans lesquelles la place des femmes est meilleure, le tabou est moins fort. C'est-à-dire qu'on va pouvoir célébrer les premières règles joyeusement.
Mais où ça, par exemple?
Par exemple, chez le peuple Mozo, en Chine, dans les contreforts de l'Himalaya, peuple qui a été décrit par un anthropologue comme la société sans père ni mari, les femmes ont, à partir de leur première règle, une robe particulière, on fait une fête et on leur donne une clé. Cette clé, elle ouvre la porte d'une chambre qui donne sur l'extérieur et à partir de ce moment-là, la personne peut recevoir les amoureux de son choix quand elle le veut. Il y a deux grands péchés chez les Mozo, c'est la jalousie et la possessivité.
On a beaucoup à apprendre les Mozo, mais non.
Est-ce que le congé menstruel pourrait être une solution? Certaines féministes estiment qu'au contraire, ça stigmatiserait encore plus les femmes. C'est quoi votre point de vue là-dessus?
Alors moi, je suis pour le congé menstruel parce qu'il permet de se rappeler que nous avons un corps. Selon la définition de l'OMS, la santé, ce n'est pas l'absence de maladie, c'est un état de bien-être. Quand on est en raison de... par exemple, quand on travaille la nuit, quand on fait un travail dur physiquement, on peut avoir des difficultés à vivre ses règles dans l'entreprise. Un congé menstruel ou un congé gynécologique, par exemple, la ville de Strasbourg est en train d'instaurer ça, par exemple pour les personnes qui souffrent de cycles pénibles en raison de la périménopause, au moment où elles ont aussi des troubles musculo-squelettiques, etc. C'est quelque chose de super intéressant et qui va dans le bon sens, d'après moi. Alors, quant à la stigmatisation des femmes parce qu'elles auraient droit à un congé supplémentaire, j'ai envie de répondre que ce congé menstruel, il a existé. Il a existé dans l'administration publique des douanes pendant la Première Guerre mondiale, où les femmes avaient remplacé les hommes dans les guérites. Elles se sont aperçues qu'elles ne pouvaient pas rester dans cette guérite le jour où elles avaient leurs règles, et elles ont obtenu une dizaine de jours de congé pour indisposition. Quand les hommes sont revenus du front, ils ont dit, comment ça? Un congé que nous n'avons pas? Nous le demandons. Nous sommes mutilés de guerre, ce qui était souvent le cas. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé. Ça a existé dans les douanes jusqu'à 2004, jusqu'à l'instauration des 35 heures. Il y a cette idée d'être solidaire par rapport aux événements de nos corps, qui est, à mon avis, le chemin à emprunter dans l'entreprise. De surcroît, les entreprises qui l'ont mis en œuvre ne constatent aucune baisse de productivité, au contraire, parce que quand on fait attention à la santé et au bien-être des personnes qui travaillent, eh bien, elles travaillent d'autant mieux.
Élise Thiébaud, est-ce que l'école fait suffisamment? J'ai l'impression, je ne sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, mais que très longtemps, les parents étaient un peu démunis pour expliquer aux jeunes filles ce qui allait se passer, comment s'y préparer, etc., en parler librement. Est-ce que ce n'est pas tout simplement à l'école, tout simplement pour que tout le monde soit égalité là-dessus, de prendre en charge avec des petits cours là-dessus ou des petites explications?
Normalement, il doit y avoir des cours d'éducation à la vie sexuelle et affective, si je ne me trompe. J'ai écrit une petite pièce de théâtre qui s'appelle Tout sur le rouge et qui circule dans les collèges et qui donne lieu à des rencontres dans lesquelles mon livre est présent dans les CDI et d'autres livres d'ailleurs. Il y a eu plein d'ouvrages dans le cadre de normalement, y compris des cours de SVT, on devrait expliquer ça. Mais comme le sujet reste entaché de malaise et qu'il est tabou, la façon dont il est transmis Ça vaut pour d'autres éléments d'ailleurs liés à la vie sexuelle et affective. On n'est pas tous au clair et à l'aise avec ça, il faut bien le dire. Et ben, c'est pas forcément évident. Mais oui, il le faudrait. Il faudrait défendre la possibilité d'avoir une parole là-dessus à l'école.
Vous écoutez France Inter, il est 16h45. Il y a, c'est difficile à croire, une autre personne à suivre sur le sujet, Kélis Thiébaud. Manon, vous la connaissez.
Je vous présente Fanny Abbès et Claudette Lauvencin. Elles ont une trentaine d'années, elles sont françaises et elles ont lancé l'une des premières marques françaises de culottes de règles, Fempo. Les deux complices se sont rencontrées pendant leurs études au Canada et c'est une fois rentrées en France, en 2017, qu'elles ont voulu faire un projet ensemble. C'est comme ça qu'elles ont commencé à s'intéresser aux besoins des femmes concernant les protections, des protections hygiéniques confortables, durables et écologiques à une époque où le sujet était peu abordé en France. À l'époque, c'était encore très tabou et les femmes avaient peu de choix. C'était soit serviette, soit tampon. La coupe menstruelle venait à peine d'arriver dans les supermarchés et les pharmacies françaises. Leur démarche a d'abord commencé par un sondage qu'elles ont partagé en ligne afin de savoir comment les femmes vivaient leurs règles et quelles étaient leurs difficultés. Et elles ont été étonnées du nombre de retours, des milliers de réponses en même pas 24 heures. Manifestement, il y avait donc une vraie demande de ce côté-là. Les femmes n'étaient pas satisfaites de leur protection hygiénique. C'est comme ça qu'elles ont eu l'idée de la culotte menstruelle. En 2017, personne n'avait encore lancé sa marque en France. Il y en avait une aux États-Unis, la marque Sync, qui a été l'une des pionnières dans ce domaine. Fanny Abbès et Claudette Lauvencin ont d'abord lancé Fempo avec des moyens limités, un budget initial de 250 euros, misant sur des précommandes et des retours de prototypes pour l'ajuster. Elles disent « On s'est lancé sur Facebook, on a trouvé des informations sur Wikipédia, on s'est formé grâce à des tutoriels sur YouTube. » C'est Internet qui nous a permis de prendre notre destin en main. C'est comme ça qu'elles arrivent à créer des culottes fines, absorbantes, lavables et réutilisables. Une révolution. La première année, elles ont eu un total de plus de 50 000 commandes et ça n'a fait que s'accentuer depuis. Aujourd'hui, Fempo est une vraie entreprise qui propose différents types de culottes. Elle a permis à d'autres marques françaises de voir le jour. Les culottes de règles sont un business en pleine expansion et j'ai envie de dire, tant mieux.
Merci Manon. Élise Thiébaud, on parlait de la Femtech l'autre jour, on a fait une émission ici autour de la Femtech. On voit qu'il y a c'est un énorme marché, mais on a l'impression que ça avance doucement. Est-ce que le côté tabou dont on parle depuis le début sur les règles, ça joue aussi sur cette Femtech qui peut-être a du mal à décoller parce qu'il y a encore trop de tabous autour de la santé féminine, tout simplement?
Oui, il est possible que ça ait un impact. Moi, je me demande si on n'est pas quelquefois plus dans la récupération marchande que véritablement un service. Alors, dans le cas de Fempo, c'est pas du tout le cas. C'est génial, les culottes menstruelles. Tout le monde le dit, c'est un confort exceptionnel. Pour la santé, c'est un peu ce qu'il y a de mieux. Pour l'écologie... voilà, ça combiné avec le fait d'avoir accès à des protections périodiques bio dans les lieux publics, enfin, je ne comprends pas qu'il n'y en ait pas dans les restos, dans les boîtes de nuit, on peut avoir des préservatifs, c'est génial, hein, si on a envie d'avoir un rapport sexuel en pleine nuit, sur le moment, on peut avoir des préservatifs, mais si on a nos règles, ce qui nous arrive, encore une fois, beaucoup, eh bien, il n'y a pas accès.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Lui, il a découvert l'existence des ragnagnas le même jour où il a découvert tout simplement l'existence des femmes, à 34 ans. L'abbé Chibrard avait bêtement oublié les clés sur la porte de la crypte où il séquestrait depuis 20 ans toute une promo des scouts de Lourdes. Mais en seulement 3 ans, il a rattrapé tout son retard. Bonjour Pierre Courade.
C'est vrai. Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
C'est quasiment vrai vu ce que vous nous avez raconté en rentrée. Chaque après-midi avec votre petit carnet, vous nous résumez en une minute chrono tout ce qu'on sait.
Et j'en ai griffonné des choses dans mon petit carnet cet après-midi. Déjà, on a appris que le sang des femmes n'était pas bleu, comme tous les jeunes garçons de notre époque, hein, Mathieu, qui ont été biberonnés au pub des années 90 et 2000, c'est un vrai choc. Je pense en revanche qu'on a tous appris que non seulement les publicitaires jouaient la carte de la pudeur ridicule, mais que les marques de serviettes hygiéniques étaient elles-mêmes frappées par le tabou des règles. Ce n'est que l'an dernier que des tests sur l'absorption ont été réalisés avec du vrai sang. Ça peut paraître assez fou, ça l'est, en tout cas pour notre invitée, la journaliste Élise Thiébaud. Grâce à elle, on a détabouisé les règles. Je ne sais pas si ce mot existe, si c'est pas le cas, on pourra toujours lui consacrer un numéro de Zoom Zoom Zen. Le tabou des ragnagnas, des règles, autrement dit, avoir ses ours, est existe aussi vieux que le patriarcat existe, aussi vieux que le monde, ou presque donc. Il tend heureusement à s'effacer grâce à la Gen Z, la libération de la parole des femmes dans tous les domaines a aidé à parler librement de tout, de considérer les femmes dans leur spécificité au pluriel, de bousculer les préjugés jusque dans la médecine. Il a fallu attendre ces toutes dernières années pour qu'on se rende compte que les tampons pouvaient être dangereux et que l'on parle sérieusement de l'endométriose. L'invention de la culotte menstruelle pour rendre moins difficile ces 2400 jours de la vie d'une femme est aussi très récente. De là à rendre gratuites les protections périodiques et à généraliser les congés menstruels, c'est une autre histoire. Le tabou des règles ne fait pas le poids face à la réalité budgétaire de notre pays.
Merci Pierre, et vous avez bien compris que ce n'était pas juste le 30 du mois les règles, pour toutes les femmes en même temps.
Parce que j'ai appris très récemment.
C'est voilà, quand vous étiez jeune, vous pensiez ça.
Absolument. Évidemment. Comme à la paye.
Évidemment. Et maintenant, les amis, c'est l'heure de notre experte tout-terrain, qui par professionnalisme a dû faire abstraction de son genre et de ses expériences personnelles, afin d'écrire la chronique la plus objective possible, sans accabler la gente masculine, mesdames et messieurs, Elena Nagapétian.
Alors, les ragnagnas, les Anglais qui débarquent, ou même Philippe Etchebest dans une cuisine, tout ça pour éviter de dire « j'ai mes règles ». Alors que c'est merveilleux d'avoir les règles. Déjà, ça veut dire que tu n'es pas enceinte, et ça se fête. Surtout, c'est un vrai détecteur de cutard. Tu vois, je m'explique. Vous avez prévu de passer la soirée ensemble. Une heure avant le rendez-vous, dis-lui que tu as tes règles. Et si d'un coup, il annule parce qu'il se souvient qu'il a un truc hyper important à faire, bah c'est un cutard. Alors que s'il vient avec des tampons et sur le chemin, en plus, te demande « chérie, tu veux 2 gouttes ou 3 gouttes ?» Et là, j'ai perdu tous les hommes, hein. Il n'y a que Manon qui a compris la blague. Il a que les femmes. Ouais. Prends-le, meuf. C'est un bon. La réaction du mec pendant cette période est très importante. On a besoin de se sentir soutenu. Je vais vous donner même un conseil, les gars. Vous allez me remercier après. Au lieu de dire à votre femme, t'es insupportable en ce moment, t'as tes règles ou quoi, en fait. Eh bien, si au lieu de ça, tu restes sage et gentil, si tu commences toutes les phrases par je t'aime, t'es la plus belle, et oui, c'est toi qui as raison, il y a de fortes chances que tu vas te faire sucer. Bah oui, bien sûr, parce qu'on sait être reconnaissante, vraiment. Après, c'est vrai qu'il y a. Il y a 2 types de femmes, celles qui sucent quand elles ont leurs règles et celles qui n'ont pas de cœur. Voilà. Comme les gars d'ailleurs, il y a ceux qui vont peu importe la météo, en mode guerrier, tête baissée, manche retroussée, et ceux qui n'ont pas de cœur aussi. Et après, ça ose faire les mecs virils qui aiment les entrecôtes saignantes. Après, je pense qu'il faut. Ce qui fait peur aux hommes, en fait, c'est le syndrome prémenstruel. C'est les fameux 3-4 jours avant la tempête, la période où on devient très sensible et même sa manière de respirer peut te rendre folle, en fait. Mais je vais vous dire un secret, c'est pas à cause des hormones, les gars. C'est juste une bonne excuse qu'on utilise pour vous chier dessus pendant 3 jours. Parce qu'en vrai, nous, les filles, on sait très bien se gérer. Franchement, on a plein d'astuces pour se remonter le moral. La shopping thérapie, par exemple. En revanche, après 35 ans, ma shopping thérapie, c'est à la pharmacie que ça se passe. Ça a changé, franchement, pour faire plein des produits incontournables comme les boules caisses, parce qu'avec l'âge, le sommeil devient très léger. Et c'est très d'ailleurs pratique pour ne pas entendre ton enfant la nuit. On peut aussi les utiliser en date ou au travail pour ne pas écouter le bullshit qu'on te met dans les oreilles. Ensuite, hyper important, crème pour les hémorroïdes, parce qu'après 35 ans, c'est pas sur le visage que ça bourgeonne. D'ailleurs, cette crème marche aussi très bien pour les contours des yeux. Et ne me demande pas comment je le sais. Ouais. Bien sûr, le lubrifiant, parce qu'avec le temps vient la sagesse, mais surtout la sécheresse. La sécheresse vient avec le pouvoir d'achat, on est d'accord. Et heureusement, hein, parce que c'est extrêmement cher. T'imagines 10 euros pour un tube de 100 millilitres, plus cher qu'un litre d'essence, sérieux. Alors qu'à 25 ans, t'as pas besoin de lubrifiant. À 25 ans, il suffit juste qu'il te dise je t'aime. Hein, et là, ça déclenche la flamme, la flaque. Il reste juste de jeter une petite pièce et faire un vœu qu'il me rappelle le lendemain. Après 35 ans, tu t'en fous s'il te rappelle ou pas. Après 35 ans, tu sais que s'il te rappelle, la seule chose que ça va déclencher, c'est les emmerdes. Tu vas devoir gérer non seulement tes traumas, mais aussi les siens. Espérer de ne pas tomber enceinte à nouveau et chaque mois attendre tes règles. Parce que oui, les règles, ça nous fait chier de les avoir, mais on est triste quand on n'en a plus.
Merci beaucoup, Elena Nagapétian. Et vous vous êtes trompée, parce que moi, par exemple, je prends toujours 3 gouttes, dans le doute.
C'est vrai?
Bah oui, dans le doute.
Okay,
bah, c'est le niveau de perméabilité du flux. Ouais, voilà, ouais. Ça dépend. Merci beaucoup, Elena. On vous retrouve très bientôt dans Zoom Zoom Zen, et toujours au théâtre des variétés.
Oui, à partir de janvier.
À partir de janvier, évidemment.
Zoom Zoom Zen.